il est 16h49 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de votre AM 1410 en retransmission simultanée sur le AM 1040. Et on peut tout de suite aller voir Éric Lantier. Ah bon, Éric Lantier est là.
Éric Lantier, c'est notre analyste politique et analyste social également. Aujourd'hui, on va parler avec lui de la violence dans les familles. Comment détecter cette violence dans les familles? Bonjour, mon cher ami Éric Lantier.
Bonjour, oui, oui, c'est un sujet délicat et c'est un sujet qui me préoccupe. Parce qu'en France, on est en train d'établir un protocole pour mieux dépister les victimes de violences conjugales. Et lorsque j'ai été voir les statistiques du Québec, parce que plus près de nous, ça nous préoccupe davantage, eh bien, les statistiques datent de 2015. Quand même, là, ça a un petit peu moins d'une demi-décennie, mais ça nous donne l'ampleur de la situation. En 2015, 19 406 personnes ont été victimes de crimes contre la personne dans un contexte conjugal. 78 % étaient des femmes et 22 % étaient des hommes. Et 22 %, ça veut dire que tout près d'une personne sur cinq qui est victime de violences conjugales est un homme, mais il reste que néanmoins la très forte majorité, ce sont évidemment des femmes. Et c'est préoccupant.
Oui. Ouais. Et pour l'instant, il faut dire, je comprends là où tu veux nous emmener, Éric. C'est quand même 20%, c'est pas négligeable. Or, il semble que toute l'attention aille jusqu'à présent, selon notre façon de faire ici au Québec, aux 78%, oui, qui est très important. 22%, c'est pas négligeable non plus.
Non, tout à fait. Vous avez effectivement raison. Et les hommes ont tendance à moins dénoncer leur agresseur parce qu'ils se sentent à la fois, ils sont victimes, mais ils se sentent dévalorisés. Pardon?
Humiliés.
Oui, exactement. Le mot est juste. Oui, il y a une honte, il y a une humiliation. Et ça fait en sorte que les hommes ne s'ouvriront pas. Même si les femmes, par exemple, ne dénonceront pas nécessairement d'une manière directe ou rapidement leur agresseur, elles vont davantage en parler que les hommes à des personnes de confiance. Tandis que les hommes vont s'isoler, vont garder ça pour eux. Il y a une honte, comme vous dites, et puis une humiliation qui est reliée à ça.
Et de manière pratico-pratique, lorsque dans un milieu familial, il y a un appel au 911 et que les policiers arrivent, généralement, le policier ou les policiers vont s'adresser à la femme.
Oui, tout à fait.
Parce que traditionnellement, c'est la femme qui est victime, mais ça peut être aussi, dans un cas, l'homme. Et même, moi, j'ai déjà entendu qu'un policier s'est comporté de manière inappropriée vis-à-vis de la victime qui était un homme en disant « Mais mon cher ami, quand même, faites-vous un homme. »
Oui, hein? Tout à fait.
« On ne peut pas prétendre avoir été battu par votre femme, c'est pas possible.
Mm-hmm. » Oui, c'est sûr que lorsque un homme va dénoncer ou va affirmer, il n'est pas nécessairement pris immédiatement au sérieux. C'est suite à des enquêtes qu'on peut constater, oui, effectivement, qu'il y a eu agression ou violence. Et c'est sûr que pour des hommes, ils partent avec une longueur, ils partent pas avec une longueur d'avance. Ils partent avec un recul. Donc, il faut davantage être en mesure de prouver. Et là, ça devient difficile pour les hommes à ce moment-là. Ça, c'est clair.
Il y a quelques maisons pour, je ne sais pas si elles sont nombreuses, mais je sais qu'il y avait quelques aides qui étaient offertes à des hommes victimes de violences conjugales. Mais là-dessus, il ne faut pas regarder, s'attarder uniquement sur la violence. C'est tout ce qui s'ensuit lorsqu'il y a des enfants également. Alors, ces hommes-là, pas seulement eux, victimes de violences conjugales, là, les hommes ont toujours de la difficulté lorsque madame peut faire enfin, ce qu'elle veut dans la question, pas seulement de la garde, mais surtout des droits d'accès, pas vrai?
Oui, ça, ça rend les aimants, ça rend les situations, les décisions, les mesures à prendre beaucoup plus complexes. Et, mais ce qui est préoccupant, c'est que dans la majorité des cas, là, on parle de 45 % des cas, les auteurs présumés sont des conjoints ou conjointes des victimes. 32,6 % sont des ex-conjoints ou ex-conjointes. Et dans 10,3 %, ce sont des amis ou amis intimes. Donc, on parle là de tout près de 100 % des cas, là, à quelques pourcentages près, c'est des gens de l'entourage immédiat. C'est assez rare que les agressions, ça arrive évidemment, mais la majorité des agressions sont causées par des personnes de l'entourage. Et ça, c'est préoccupant parce que dénoncer un étranger qu'on ne connaît pas, il y a déjà une barrière qui est enlevée parce qu'on se dit, OK, la personne mérite que la justice s'en mêle. Mais quand c'est quelqu'un de notre entourage qu'on côtoie ou qu'on aime ou qu'on a aimé, là, c'est beaucoup plus délicat et ça demande justement beaucoup de courage. C'est pour ça qu'en France, ils se sont dit, OK, maintenant, au niveau de la santé, que ce soit le personnel de la santé ou même chez les dentistes, on leur donne un protocole, on a mis au point un protocole pour identifier des gens qui seraient victimes de violence, mais qui n'ont pas dénoncé leur agresseur, qui, soit par peur, par culpabilité, par honte, ne le font pas. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'ils vont avoir la légitimité de pouvoir entamer des recours ou du moins questionner davantage les personnes. Ils vont pouvoir enregistrer, par exemple, des informations sans nécessairement les dévoiler. Mais et ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, lorsqu'une personne a des lésions, lorsqu'il y a des symptômes psychologiques de dépression ou lorsqu'il y a des problèmes qui sont reliés à des stigmates sur la santé sexuelle. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, et je n'avais jamais pensé à ça, mais ça fait beaucoup de sens, c'est que les dentistes doivent être vigilants, particulièrement lorsque des patientes présentent des fractures dentaires. Ou lorsque la patiente a de la difficulté à ouvrir la bouche parce que les muscles ont été endommagés, il y a eu une blessure qui n'est pas tout à fait normale. Et donc, ce sont des points de repère pour alerter ou du moins questionner, dire « Écoutez, il y a des recours, on peut vous aider. » Et là, à ce moment-là, ces personnes-là dans le milieu de la santé peuvent communiquer leurs droits, leur montrer comment déposer une plainte, leur dire qu'ils ont le droit de quitter le domicile, fournir des renseignements pour pouvoir être en milieu sécur. Et que ce soit un homme ou une femme, je crois que ces interventions-là, cette initiative qui a été prise en France, eh bien, on devrait le calquer ici au Québec et avoir des mesures comme ça pour protéger les victimes.
Alors, Éric Lantier, mon cher, notre chroniqueur politique et social, beau sujet. Mais juste un demi-petit mot sur les excuses de Québec vis-à-vis des Autochtones et des Premières Nations. Un demi.
Oui, ben, je crois que malheureusement, plusieurs communautés, dont les Autochtones, ont vécu des injustices. C'est un premier pas de reconnaître ce qui a été mal fait, de reconnaître que ces peuples-là ont vécu des douleurs, des sévices. Et je pense qu'on n'aura pas le choix, en tant que société québécoise, d'aller de l'avant et tenter de réparer les pots cassés.
Les recommandations du juge.
Selon les recommandations du juge, maintenant, évidemment, on parle de loin en arrière. Il y a des éléments qui sont plus près de nous. Et je pense que malheureusement, les peuples autochtones ont subi des abus, ont été exploités, n'ont pas été traités à leur juste valeur. Et je crois que c'est tout à fait normal en tant que peuple qu'on puisse les accommoder et les amener à retrouver leur dignité.
Merci beaucoup, mon cher ami Éric Lantier, analyste politique et social. Merci, on se retrouve demain après-midi.
Merci, à demain, au revoir.
Merci, au revoir.